Commentaires avec Jean-Marie Colombani et Jean-Claude Casanova sur Radio Classique.
Bonjour et bienvenue dans Commentaires. Jean-Claude Casanova et moi-même, nous sommes heureux de vous retrouver pour cette conversation hebdomadaire qui va porter sur les États-Unis, sur les prémices de la bataille pour la prochaine élection présidentielle, avec un nouveau face-à-face, pour le moment, semble-t-il, entre Joe Biden et Donald Trump. Et nous allons, pour essayer d'éclairer surtout les conséquences de cette bataille, parce qu'aujourd'hui, on voit bien que, compte tenu de l'éloignement des positions de l'un et de l'autre, ça changerait beaucoup la donne internationale, beaucoup la géopolitique, beaucoup le rapport de force, notamment en Europe, entre la Russie et les pays, notamment l'Ukraine et les pays européens. Nous avons avec nous Alain Frachon. Bonjour Alain.
Bonjour Jean-Marie.
Merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes éditorialiste au Monde et que vous venez de sortir en livre de poche, dans la version livre de poche, votre dernier livre qui s'appelle « L'ère des dictateurs ». Voilà. Donc nous allons parler de tout cela. La bataille aujourd'hui semble terminé pratiquement. Si on regarde, alors nous sommes au seuil où bientôt vont se tenir les primaires du Parti républicain, donc pour désigner le candidat qui sera opposé par le Parti républicain à Joe Biden. Pour les républicains aujourd'hui, semble-t-il, par sondage en tout cas, la cause semble entendue. La cause, celle de Donald Trump. Les républicains s'apprêteraient massivement à reconduire la candidature de Donald Trump, malgré tout ce que l'on sait de Trump et malgré ce que l'on sait des procès qui le menacent. Et donc, on va peut-être commencer par cela, parce qu'on entend souvent dire, y compris en France, qu'au fond, les procès qui visent Donald Trump, c'est un peu un excès de pouvoir des juges, et que ce côté excessif ou presque téléguidé des juges contre Donald Trump participe de son regain de popularité, puisque à chaque fois qu'il est inculpé, à chaque fois qu'il y a de nouvelles poursuites, il fait un bond en avant dans les sondages. Donc peut-être il faut remettre un petit peu les choses en perspective, Alain Frachon, et nous rappeler ce qui est exactement reproché par les juges à Donald Trump.
On peut faire deux remarques. La première, c'est sur les juges et Donald Trump. Donc il y a eu un débat aux États-Unis, un débat sur la scène politique, par médias interposés, à la télévision. Fallait-il poursuivre Donald Trump avant les élections, avant la fin des primaires? On savait déjà qu'il était candidat républicain, on savait déjà qu'il était en tête des républicains. Et donc voilà un homme qui a été président, qui est le candidat numéro un pour la prochaine bataille présidentielle. Est-ce que c'est aux juges de décider de son avenir? Est-ce que c'est à eux de décider de son avenir? Est-ce qu'au point où on en est, il ne faut pas laisser les électeurs trancher, qu'il s'agisse des élections primaires, il faut laisser les républicains trancher, quel est le meilleur candidat selon eux, voire même qu'il s'agisse de la bataille du mardi 5 novembre 2024, qui est le jour de l'élection américaine, présidentielle, et on élit aussi le Congrès. Et les juges eux-mêmes n'ont rien dit, ils sont restés silencieux, mais ils ont fait savoir ce qu'ils pensaient. Ils ont dit, imaginez que nous ne poursuivions pas Donald Trump. Qu'en est-il de l'état de droit aux États-Unis? Les poursuites contre Donald Trump, c'est pas qu'il va avoir des procès. Il est en procès. Il est inculpé. Il est inculpé 4 fois. Il y a 4 inculpations criminelles qui pèsent sur lui. 2 au niveau fédéral et 2 par 2 différents États. Une inculpation criminelle à New York pour faux en écriture.
Et fraude fiscale, oui.
Et faute, voilà. Et une inculpation en Géorgie pour avoir manipulé, essayé de manipuler les résultats de l'élection. Donc 4 inculpations criminelles. C'est-à-dire que 4 juges d'instruction ont estimé qu'il fallait le juger. Il va être jugé. Et ces jugements vont intervenir pendant la campagne des primaires républicaines. Donc on commence en mars, il y a un fameux mardi de mars qui est le premier ou le deuxième, je crois, ou la deuxième semaine de mars, qu'on appelle le super mardi, parce qu'on vote quasiment dans tout le sud historique des États-Unis, et après, vous ne rattrapez pas. Si vous gagnez le sud historique, c'est très difficile de vous arrêter, et vous êtes pratiquement parti pour gagner les primaires républicaines. Eh bien, Ce jour-là, il s'ouvrira son procès en Géorgie. Alors le procès, évidemment, les procès, Trump va les faire durer longtemps, avec toutes les procédures d'appel possibles. Ce sont des jurés qui tranchent à chaque fois, mais sous l'influence du juge, dont deux ont été nommés par Trump, mais qui ne s'avèrent pas comme les plus commodes à l'égard de Trump. Et donc, on va avoir une campagne électorale chez les Républicains, une campagne des primaires, qui va être ponctuée, piquée, des quatre procès pour inculpation criminelle qui pèsent sur Trump. Jusqu'à présent, ça lui a plutôt porté chance. Il se présente en martyr, transpercé des flèches d'un corps de magistrat qu'il accuse d'être vendu au Parti démocrate jusqu'à présent, mais plus aujourd'hui. C'est fini. Il perd avec ses procès. Il perd y compris dans l'électorat républicain. Il perd des points. Il reste très largement majoritaire. Il va probablement gagner les primaires. Mais la situation s'est plutôt retournée contre lui. Les procès qui pèsent sur lui et qui vont empoisonner toute sa campagne des primaires lui coûterait plutôt des points, en ce sens que vous avez les républicains qui votent. Il a besoin du vote de républicains relativement modérés, même dans les primaires. Dans les primaires, on cherche le cœur de l'électorat. En général, c'est pas les plus modérés. Mais il a quand même besoin d'eux dans des états clés. Et il pourrait les perdre. Il gagnera les primaires. Mais pour le moment, les inculpations, les procès ne le favorisent plus.
Alors avant qu'on en vienne à Joe Biden, il faut peut-être rappeler aussi que la principale instance concerne des faits gravissimes, puisque c'est le rôle qu'il a joué dans la journée du 6 janvier, qui est la journée de l'assaut contre le Capitole, dans laquelle il est convaincu par les juges. En tout cas, les juges lui reprochent d'avoir encouragé quelque chose qui ressemblait à une tentative de coup d'État. Jean-Claude Casanova.
Oui, la commission d'enquête sur la tentative de prise du Capitole est accablante pour Trump. Si vous voulez. La lecture fait apparaître incontestablement chez lui une tentative de manipulation, d'effacement des résultats. C'est un coup d'État larvé, c'est incontestable dans le rapport de la commission, où les gens ont prêté serment, où il y a toutes les apparences, en tout cas, de la légalité et de la vérité. Alors, je pense comme Alain que dans une fraction de l'électorat républicain, dans l'électorat modéré, il va perdre, d'autant que les républicains anti-Trump reprennent du poil de la bête. Et quand on regarde les journaux par exemple, le journal le plus conservateur, National Review, et malgré tout, contre Trump, dans le monde intellectuel de la droite américaine, dans le monde intellectuel républicain, les gens lui sont hostiles. Il perd à l'intérieur du Parti républicain. Et s'il était un homme raisonnable, s'il était un vrai républicain, si j'ose dire, il s'est emparé du Parti républicain sans l'être, s'il était un vrai républicain, il dirait « j'ai moins de chances » qu'un autre républicain, ce que je crois vrai d'ailleurs, un républicain plus jeune et sans tache morale pourrait gagner contre Biden, alors que lui est au fond, si j'étais Biden, je serais favorable à la candidature Trump. C'est pour Biden la meilleure candidature possible.
Alors moi je me souviens très tôt, Alain Frachon, vous aviez noté que le principal handicap de Joe Biden, c'était son âge. Et c'est son âge. Et donc, il ne se passe pas de jour ou de semaine sans qu'un incident vienne rappeler à l'opinion que non seulement il a son âge, mais il fait son âge aussi, avec toute une série de gaffes ou d'incidents ou de chutes qui rappellent cela et qui font qu'une majorité aujourd'hui, me semble-t-il, d'électeurs ou de sympathisants démocrates voudraient qu'il se retire. Absolument. De cette candidature. Et lui, au contraire, invoque le fait que s'il reste candidat, c'est pour défendre la démocratie américaine menacée, selon lui, par Donald Trump, par le retour éventuel de Donald Trump. Alain Frachon.
Le président estime qu'il est le mieux placé des démocrates pour faire face à Trump. Il veut ce deuxième mandat. Il estime, à juste titre, qu'il a montré un bilan politique, en politique intérieure, et c'est ce qui compte essentiellement, mais aussi en politique extérieure, très largement positif. Sa popularité reste faible, essentiellement à cause de son âge, mais pas uniquement à cause de son âge. 70% des électeurs démocrates ne veulent pas qu'il se représente. Je crois que la pression est assez forte en ce moment dans la direction démocrate, mais c'est difficile d'aller contre le président. Mais il y a eu une petite indication importante il y a 15 jours dans le Washington Post. Le Washington Post, c'est vraiment le journal de la politique. C'est-à-dire que le moindre frisson politique, c'est leur métier, c'est leur circonscription, la politique, Washington. Et le moindre frisson politique, la moindre tendance, ils l'attrapent et ils en font un titre. Mais dans le Washington Post, un des éditorialistes les plus réputés des États-Unis, David Ignatius, a dit au président, « Président, vous avez fait un mandat formidable, vous avez battu Trump une fois, mais il faut partir maintenant. Vous êtes trop âgé, la situation est trop grave. » Et c'est fait sur un ton extrêmement poli, extrêmement courtois. Et David Ignatius, je ne verrai pas de comparaison à Paris, si vous voulez, mais c'est vraiment l'élite démocrate, intellectuelle, centriste, la plus respectée à Washington, dans les milieux politiques, dans les élites publiques en général. Ça, c'est le premier qui a osé faire ça. Mais ce faisant, il a libéré la parole de beaucoup de gens qui pensent comme lui. Alors, évidemment, d'autres sont venus soutenir le président, Bill Clinton et sa femme, etc. Mais ça y est, ce débat-là, il est public. Ça, c'est une première chose. Et on ne sait pas si le ticket démocrate, ça sera Joe Biden et Kamala Harris en novembre. Et j'ai déjeuné la semaine dernière avec une journaliste américaine qui, elle, m'a dit « Le ticket ne sera ni Joe Biden, ni Donald Trump. La situation est plus fluide que jamais. » La deuxième remarque, c'est que ce climat a une répercussion sur le comportement de Joe Biden. La force de Joe Biden, c'est un grand charme politique. Biden, c'est un politique à l'ancienne. Et beaucoup d'humour, beaucoup de gaffe aussi, mais on l'aime parce qu'il est comme ça. Il est tellement cerné par ses conseillers qu'il n'est plus Joe Biden. Ce charme-là est parti, il n'ose plus. Les conseillers interrompent les conférences de presse. Dans l'avion qu'il ramène d'un voyage à l'étranger, et là il était entouré de beaucoup de dirigeants pour aller au sommet du G20 à New Delhi, puis ensuite à Hanoï, il y avait énormément de journalistes. C'était très émouvant la visite du président Biden à Hanoï. Eh bien, il l'interrompt de peur d'une gaffe et de peur que sa parole manque de la logique qu'on est en droit d'attendre d'un candidat ou d'un président de la République. Il n'est plus Joe Biden. Et donc c'est une situation assez difficile, me semble-t-il, qui est celle des démocrates en ce moment.
Jean-Claude ?
Oui, je suis complètement d'accord. J'ajouterai un point, c'est que là, il a de façon surprenante une très bonne situation économique pour l'instant. C'est-à-dire que la croissance, le taux de croissance est élevé, le taux de chômage est extrêmement bas, et malgré des taux d'intérêt élevés. Et l'inflation se réduit nettement. Donc, et par-dessus le marché, il y a un grand déficit budgétaire et un grand déficit de la balance des paiements. Et il y a un miracle historique américain, c'est que les Américains ont de moins en moins confiance dans les autorités, dans la justice, dans la presse, dans le président, dans le Sénat, etc. Et le monde extérieur a de plus en plus confiance dans le dollar. C'est-à-dire, quel que soit le déficit public des États-Unis et quel que soit le déficit de la balance des paiements, les gens acceptent de prêter aux États-Unis. Le dollar, si vous voulez, la monnaie dans laquelle le monde entier a le plus confiance, et l'Amérique est le pays dans lequel la démocratie, d'une certaine façon, est en crise et est menacée par la chute de la confiance.
Commentaire sur Radio Classique.
Nous évoquons la situation politique aux États-Unis avec Alain Frachon, éditorialiste au Monde, et Jean-Claude Casanova évoquait à l'instant la situation économique du pays, qui est plutôt en voie soit d'amélioration, soit déjà positive. Et le grand paradoxe, c'est que malgré cette situation, Joe Biden reste pas impopulaire, mais avec une popularité probablement trop faible aujourd'hui pour qui voudrait reconquérir la Maison-Blanche, Alain Frachon. C'est quand même étonnant dans la situation. Alors, peut-être faut-il ramener toute cette discussion à l'âge, ce que l'on a fait tout à l'heure, à l'âge du capitaine.
Pas seulement. Je crois qu'il y a en ce moment aux États-Unis, je lis attentivement un spectre assez large de publications, un phénomène assez inquiétant pour la démocratie et qui pourrait gagner la France. C'est une déconnexion de plus en plus forte entre ce que réalise le pouvoir politique, ce que peut le politique quand il est en fonction, et sa popularité. C'est-à-dire que il semble que la polarisation est telle que ce qui compte, c'est la tribu à laquelle vous appartenez. Avant, un républicain, avant un président démocrate, avait toujours avec lui 10 ou 20% d'électorat, selon les sondages, qui pouvaient soutenir son action. Ça a été le cas de Bill Clinton. Un président républicain, comme Ronald Reagan, avait toujours au moins 20, 25%, 30% de l'électorat démocrate dans les sondages qui approuvait son action aussi. Et donc, il y avait comme ça une sorte d'opinion bipartisane qui s'installait et qui portait un jugement sur l'action du président. C'est fini. Maintenant, ce qui compte, c'est pas le jugement que vous portez sur le programme, c'est la tribu à laquelle vous appartenez. Et si vous êtes républicain, le président démocrate peut appliquer la politique du parti républicain au Congrès, on s'en fiche, on vote républicain et on stigmatise le président démocrate, non pas pour ce qu'il fait, mais pour ce qu'il est démocrate. C'est la pointe extrême de la polarisation, où il y a une déconnexion entre ce que réalise le politique, qu'il soit républicain ou démocrate, et le jugement, selon les sondages, porté par les électeurs. Mais c'est pas selon les sondages. Il y a un sondage très intéressant qui est fait aux États-Unis depuis avant, qui commence avant la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, qui est, voilà, si vous êtes dans une famille démocrate et que un de vos enfants dit je vais épouser un républicain, est-ce que c'est un drame? Ce n'était pas un drame jusqu'à il y a 10 ou 20 ans. Ce n'était pas un problème. Les chiffres montrent maintenant que dans une famille démocrate, si un enfant épouse quelqu'un qui est enregistré républicain, comme on le fait aux États-Unis, c'est un problème. Et c'est un problème dans l'autre sens aussi.
Jean-Claude Casanova.
Je suis complètement d'accord avec Alain et il y a deux phénomènes historiques. Le premier, c'est qu'autrefois, l'hétérogénéité des partis était considérable. C'est-à-dire être un démocrate du Sud, ça voulait dire qu'on était conservateur. Et être un démocrate de l'État de New York, ça voulait dire qu'on était un libéral. Et ça, c'était lié au fait que la tripartition radical, libéral, conservateur, la tripartition d'origine anglaise et américaine dès le départ, était plus importante que la dualité droite-gauche. Et d'une certaine façon, la dualité, les partis sont devenus beaucoup plus homogènes. On ne rencontre presque plus de républicains de l'Est, si vous voulez. Romney était d'une certaine façon, qui est un homme très respectable, il a été gouverneur du Massachusetts, était un républicain de l'Est, c'est-à-dire presque un libéral. Et on ne trouve plus de démocrates du Sud qui sont des conservateurs. Et donc, il y a une polarisation de la société américaine. Et si vous ajoutez à ça la perte de confiance que j'indique, c'est-à-dire que les républicains n'ont absolument pas confiance, détestent les démocrates et réciproquement. Et donc, il y a quelque chose de dangereux pour la démocratie, si vous voulez. C'est pour ça, cette élection a une très très grande importance historique, si vous voulez, pour la démocratie dans le monde, puisqu'on vient de publier aujourd'hui, l'économiste a rassemblé toutes les analyses possibles du déclin du libéralisme et de la démocratie. C'est assez impressionnant, depuis 20 ans dans le monde entier, votre livre le montre aussi, la démocratie est en crise.
Et donc, par ailleurs, Jean-Claude Casanova et Alain Frachon, on est aussi face à un choc prévisible si d'aventure Donald Trump était élu ou réélu. Parce que Donald Trump a promis de mettre fin en une journée ou en quelques heures à la guerre en Ukraine. Ça veut dire qu'il cesserait d'alimenter l'Ukraine en armes, en munitions, et ainsi de suite. Donc un virage complètement. Donc ce serait en effet la victoire de Poutine. Donc c'est un sujet qui est peut-être pas trop présent dans le débat américain, encore que, mais qui est aussi fondamental, Alain Frachon.
Il ne faut pas se faire d'illusions. Ça sera le même Donald Trump, en pire. Il dira encore plus de mal de l'OTAN. même si sur le plan pratique, il n'a rien fait contre l'OTAN, les budgets étaient là, il dira encore plus de mal de l'Union européenne, il essaiera encore plus de faire du mal à l'Union européenne, qu'a-t-il dit, le pire ennemi économique des États-Unis. Je ne sais pas quel sera son comportement à l'adresse de la Chine, ça c'est plus mystérieux, on ne sait pas. Et quant à ce qui concerne la Russie et Vladimir Poutine, il a dit, et il essaiera de faire ça. Donc ça sera le même Donald Trump, peut-être en pire, avec la volonté de se venger de cette défaite en novembre 2020 qu'il n'a jamais digérée. Ce sera le même Donald Trump avec la même mécanique institutionnelle américaine. C'est-à-dire que le Congrès, y compris le Congrès républicain, le Parti républicain du Congrès, au Sénat ou à la Chambre des représentants, et peu importe qui a la majorité, en général, c'est rare que les deux chambres aient la même majorité politique, soit ou entièrement républicaine. L'empêcheront de faire ce qu'il aimerait faire. Par exemple, sortir de l'OTAN suppose, c'est un traité qui a été ratifié par le Sénat, suppose une majorité au Sénat. Il ne l'aura pas. Y compris tel qu'est le groupe des sénateurs républicains aujourd'hui, il ne l'aura pas. Et donc, il a sans arrêt été bordé en politique étrangère par son propre parti, d'une certaine manière.
Mais la Cour suprême aussi.
La Cour suprême, pour le moment, lui est acquise relativement. Parce qu'il l'a repeuplée.
Elle
ne l'a pas soutenue dans l'affaire électorale.
Non, elle ne l'a pas soutenue. Et donc, voilà. Mais il ne faut pas se faire d'illusions. Ce sera une confrontation très difficile. D'autant plus que Donald Trump n'a pas affiché de programme.
Ah ben oui, puisqu'il dit, de toute façon, on me connaît, on sait quel excellent président j'ai été, donc il suffit de me réélire. Mais juste avant de clore cette discussion, qu'on aurait pu évidemment prolonger, sur Trump, bon, on sait à quoi s'attendre, mais en même temps, côté démocrate, si ça n'est pas Joe Biden, pour le moment, c'est un peu le désert, ou en tout cas, c'est le silence ou l'absence, parce que personne ne parle non plus de Kamala Harris comme une candidate possible. Donc là aussi, c'est une panne préoccupante, Jean-Claude.
Il y a peu de précédents de président qui veut être réélu et qui n'accède pas à la candidature.
Je n'en connais pas. En général, dans le parti, qu'il soit républicain ou démocrate, on respecte la candidature pour un deuxième mandat du président. On la respecte, même si on pense que c'est pas une très bonne idée. Mais il n'y a pas d'exemple de véritable primaire dans le parti qui est à la Maison Blanche.
Johnson avait renoncé.
Nixon est parti. Nixon a fait son deuxième mandat avant d'être interrompu par son propre départ.
Ça voudrait dire une renonciation de Biden lui-même.
Alors voilà, tant que le président est candidat,
Biden renonce, c'est le désert.
Tant que le président est candidat, on n'y va pas. Par courtoisie, et puis parce que c'est la mécanique, c'est la tradition, pas institutionnelle, on a le droit institutionnellement de se prononcer. Je crois qu'il y aura peut-être un petit Kennedy, là, qui est un complotiste,
qui veut se prononcer contre Biden. Oui.
Mais sinon, non, il y a des candidats qui sont forts, il y a des gouverneurs qui sont forts et populaires, il y a le gouverneur de Californie. En général, dans ce type de situation, il semble que ça serait au vice-président de se présenter.
Bien sûr.
Mais les vice-présidents n'ont pas beaucoup de chance, pas toujours de la chance. C'est pas forcément un job facile. Personne n'a rien à reprocher à Kamala Harris. Elle n'a pas fait une gaffe. Sa fidélité au président est totale. Sa fidélité au parti est totale. C'est une femme qui a été sénateur, haute magistrate, qui est d'origine compliquée, à la fois antillaise et indienne. Et donc... D'abord, c'est très difficile de la marginaliser, parce qu'une partie de l'électorat n'appréciera pas ça. Une partie de l'électorat...
Qu'elle soit mise de côté, bien sûr.
Une partie de l'électorat féminin, c'est important, au Parti démocrate. Une partie de l'électorat afro-américain, c'est important, dans le Parti démocrate. Donc c'est difficile. Mais elle peut se retirer aussi. C'est pas exclu.
En tout cas, le suspense est entier et donc on sera amené à suivre ça avec précision parce que c'est vrai que la pression sur Joe Biden, on la sent évidemment monter pour qu'il renonce à cette nouvelle candidature alors que lui, chaque jour qui passe, l'ancre davantage dans l'idée qu'il faut y aller au contraire si on veut empêcher une réélection de Donald Trump. Merci donc Alain Frachon d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes l'auteur d'un livre intitulé « L'ère des dictateurs » et qui est publié en livre de poche aujourd'hui et que vous êtes aussi éditorialiste au Monde et qu'on peut vous retrouver aussi sur un podcast qui s'appelle « Le Monde devant soi » que vous éditez chaque semaine à Slate.fr. Merci beaucoup à vous toutes et à vous tous de nous avoir prêté attention aujourd'hui. Jean-Claude Casanova et moi-même, nous vous donnons rendez-vous samedi prochain pour une autre édition de Commentaires.